nos différences. Il est 19h sur le 101.5 de Radio G, l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Seb au micro, ce soir on va parler de super-héros, d'aliens, de petits renards, et d'autres trucs. Mais d'abord, générique.
Sauvez-vous tous ! Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics. Je l'ai déjà dit, c'est Seb qui est au micro, mais je ne suis pas tout seul ce soir, je suis avec Fabien. Ça va Fabien ?
Ça va et toi ?
Eh bah oui, ça va, ça faisait plaisir de vous voir, donc voilà.
Ouais, c'est cool, en plus on a eu un petit week-end sympa avec un petit jour férié avant, donc...
Ouais, il y a plein de gens qui t'expliquaient que c'était cool de commencer un mois par un jour férié suivi d'un week-end, et tu fais « Ah ouais, effectivement, dit comme ça ».
Ouais, non, c'est toujours sympathique.
Et ce soir, nous serons également accompagnés par Luc, qui va faire une petite interview avec nous pour la sortie de son album. On en reparlera tout à l'heure, mais bonjour quand même Luc.
Bonsoir à tous.
Voilà, ça fait bizarre de t'entendre dans le casque.
Non, ça va, merci.
Ça va. Hop. Alors, est-ce que tu veux commencer, Fabien ? Est-ce que
tu veux... Si tu veux. Pourquoi pas.
Moi, je peux prendre les hostilités avec la suite d'Imago. Je sais pas si tu connaissais.
Non, je connais pas ça. Donc, bon, vas-y, hein, je te laisse la main et puis
et ben, la suite. On y va. Alors, j'ai travaillé, j'ai réussi à faire mes petites jingles. Donc, on a un jingle sur les suites. C'est parti.
Oh, mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Ensuite ?
A few moments later.
Bon, voilà. Ça vaut ce que ça vaut. J'en suis pas hyper fier, mais j'ai pas réussi à faire beaucoup mieux.
Non, mais ça colle, on sait, avec la suite.
C'est ça. Imago. Donc, Imago, c'est le tome 2 qui vient de sortir. Moi, j'ai été un petit peu surpris par ce manga lors de la première, lors de la sortie du tome 1. Parce qu'il y a une série animée que je n'avais jamais vue en parallèle. Je sais pas si tu connaissais Luc Imago.
Non, j'ai pas ce plaisir. Je suis très classique et conventionnel en manga puisque je suis resté fidèle à Toriyama,
okay.
Dr. Slump et puis Dragon Ball.
C'est des bonnes bases.
Mais bon, j'aime bien aussi d'autres auteurs.
Je parle bien en face du micro.
Sinon, on t'entend pas, en fait. C'est juste le problème.
Non, j'aime bien d'autres auteurs. Mais c'est vrai que je suis assez classique en manga. J'ai découvert Solo Leveling, qui est un manhwa.
Ouais.
Récemment, qui est bien fichu. J'ai lu Naruto, One Piece un petit peu, mais ça me fait un petit peu peur de mettre le doigt dans cet engrenage-là quand je vois le nombre de tomes.
Effectivement, ça peut être un petit peu effrayant. Après, Imago, c'est là, le tome 2 vient de sortir. Le tome 1 a dû sortir en juillet 2024, il y a quasiment un an du coup maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une série, donc c'est une série à la base d'animation. Le manga, en fait, c'est une histoire en parallèle, c'est un spin-off qui se peut se lire sans connaître du tout la série. Okay. Et c'est fait de manière assez, assez agréable. En gros, la comparaison avec Pokémon, elle est très rapide à faire, mais en fait, ce sont des gens qui ont la possibilité d'avoir une espèce de compagnon totem qui correspond à un souhait et à un type de pouvoir qu'ils ont émis. Et on suit un jeune garçon qui, lui, va se retrouver avec un imago qui l'a hérité de quelqu'un d'autre et qui a des pouvoirs particuliers parce qu'il y a plusieurs types d'imago et il y a plusieurs rangs d'imago et ça marche bien. Donc l'histoire, elle est toujours aussi cool. C'est toujours agréable à lire. Les dessins sont franchement sympas. C'est du manga français, français, ou c'est pas du manga, c'est en tout cas c'est pas du manga japonais, mais puisque c'est un scénario de Sylvain Dos Santos, c'est pas très japonais.
On a déjà vu Rudy Valente, comment il s'appelle, Radiant.
Radiant,
Tony Valente.
Tony Valente, pas ouais. Du tout Rudy Valentino qui a rien à voir du tout.
Non, rien du tout. Donc voilà, Imago, le tome 2 vient de sortir. Voilà, si vous avez des enfants entre 7 et 10 ans, Imago, ça marche très très bien. C'est plutôt cool à regarder, même pour les adultes, c'est pas cucu. Voilà, ça marche très bien.
Oui, bah comme tu dis, je pense qu'on est dans la lignée un peu de ce qu'il fait avec Pokémon, ou même, on peut dire avec Beyblade, ou ce genre d'aventure pour les plus jeunes, ouais. Entre guillemets, qui fonctionne très très bien en général.
Alors, pas dans le même format, ça me fait penser à Mélie et le Monster Maker Club, je sais pas si vous connaissez.
Ça me parle pas. Fais bien attention à ton micro, parce que tu tournes beaucoup la tête.
Ça me donner un style.
Mais le Monster Maker Club, ça, j'en ai entendu parler, je crois que ma fille a lu ça.
Moi, je pourrais pas vous aider, je ne connais pas.
Bon, et ben, tant pis.
C'est Gorobei au dessin, une de mémoire, et puis Tito May Carbone au scénar.
Ah yes, je vois, donc je vois Gorobei du coup, effectivement. Je vais enchaîner avec un autre truc, puisqu'on est toujours sur les trucs pour enfants, avec Shiikawa. Imago, je mentionne toujours maintenant, c'est un service de presse, c'est publié aux éditions Pika, et c'est de Sylvain Dos Santos, c'est au scénario, c'est Mariam Hashmi, et c'est un dessin de Galang Tirtakuzuma. Voilà, je suis désolé, les prononciations, c'est toujours un petit peu un enfer. Là, on va partir sur un truc, mais alors, toujours un service de presse qui est particulier, ça s'appelle Shiikawa, Petit, Mimi et Zarbi. C'est de Nagano, c'est publié aux éditions Nobinobi. Est-ce que tu avais entendu parler de ça?
Oui, je l'ai entendu passer ça sur les réseaux un peu, j'avais vu le petit truc, en effet, tout Zarbi.
Ok, et toi?
Il a pas des faux airs de Molang, ton
Shiikawa? Il y a Shiikawa. Un truc, effectivement. En fait, de ce que j'ai compris, c'est que ça surfe sur le kawaii pour adultes, truc que je ne connaissais pas. Et du coup, Molang, c'est plutôt du kawaii pour enfants. D'accord. Mais on est sur le même type d'histoire. On va suivre trois petites créatures, dont Shiikawa, qui s'expriment uniquement par onomatopée. Il y a une des créatures, alors j'ai perdu son nom, c'est Ashiware, qui lui est une sorte de lapin et qui parle avec des vrais mots. Et ils vivent des petites aventures, mais ce sont des micro-scénettes. C'est même pas du strip, c'est... Je vous le passez.
Ils ont un peu les têtes de Tamagotchi quand même. Hein.
Ouais,
il y a de ça.
En fait, il y a une grosse tête, un tout petit corps, des membres qui sont quasi inexistants. Et... j'ai bien aimé, malgré le fait que j'ai pas compris. Il y a un humour qui, moi, m'est passé au-dessus. C'est des petites tranches de vie avec des gags. Mais c'est du gag parce qu'on te met une chute et c'est assez particulier à regarder et à lire. Et en fait, ça marche bien. Les enfants ont kiffé. J'ai pas passé un mauvais moment. Mais j'avoue que j'ai pas tout compris. Et je pense qu'il y a beaucoup de blagues qui sont des blagues très japonaise dans l'humour, ce qui fait que si on n'a pas tous ces codes-là, malheureusement, on va passer un petit peu à côté.
Donc, ouais, c'est un problème de traduction que de véritable.
Pas forcément.
Sur subtilité, alors.
Pas forcément, parce qu'en fait, les gags japonaises basent surtout sur du visuel ou du situationnel. Et en termes de trad, situationnel, c'est compliqué, en fait. Si tu modifies une case ou un truc comme ça, ça marche pas. Et il y a beaucoup ce genre de choses-là. Mais c'est pas du gag où on va se marrer comme une baleine. C'est du petit gag mignon. Et c'est, mince, je suis tombé. Et c'est ce genre de petite blague. Et ça passe bien, ça passe tout seul, c'est frais. Il y a un contraste assez fort entre les créatures mignonnes et d'autres créatures qui sont carrément cringe et qui foutent les jetons dans le truc. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à des humains, c'est des types en armure. Me demandez pas pourquoi, j'ai pas compris.
Référence japonaise.
Ouais, c'est en fait ce genre de truc là où il y a un décalage. Mais le type en armure, il fait peur. Mais ça l'empêche pas, en fait, de se retrouver avec une petite bourse en forme de cochon rose sur le côté à un moment. Oui. C'est bizarre.
Et c'est curieux.
Après, c'est dans le titre, hein. C'est mignon, Zarbi. Et ça cartonne au Japon. À tel point qu'il y a des partenariats qui sont créés avec des grandes marques. Les supermarchés, en fait, japonais ont quasiment tous un rayon où on va pouvoir retrouver les produits de Chikawa. Et j'ai appris qu'il y avait même eu un partenariat entre Chikawa et Ariana Grande.
Oui, d'accord.
Et là, je fais, ok, je suis complètement passé à côté, et ça me fait plaisir de le découvrir maintenant, quoi.
Bah, en même temps, il y a une logique interne à ce truc-là. On dirait un petit bonhomme anti-stress, un peu.
Ouais, c'est Chikawa. Ça.
Donc, il doit être décliné en toutes sortes de
goodies. Il y a des parapluies, il y a des masques, il y a... Alors, je me réfère à la fiche de presse, mais quand on voit un rayon, en fait, on a des peluches, on a des masques de soins pour le visage, on va avoir des chocolats, on va avoir... Il y a tellement de trucs, en fait, et voilà. Et ça marche trop bien.
Dès que c'est mignon, là-bas, ça fonctionne.
Ben ouais, mais c'est impressionnant. Là, tu vois, la fiche de presse, elle est en forme de tête de Chikawa. Voilà. Donc là, actuellement, il y a, sauf erreur de ma part, 7 tomes au Japon.
Ah oui.
Et on va avoir un tome tous les 2 mois.
Le temps de rattraper la publication japonaise.
Et puis après, on attendra certainement un petit peu plus longtemps. Faut savoir que ça a démarré sur Twitter, en fait. C'est des petites choses qui étaient publiées sur Twitter.
C'est
et
pas étonnant.
Ça a cartonné.
Le format s'y prête vachement. Et je pense que la publication doit être assez rapide parce que c'est pas non plus des dessins qui demandent énormément. Entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va pas avoir des décors de fou et tout ça, donc je pense qu'ils doivent aller assez vite pour faire leur strip.
Moi, ça me demande des heures de faire un truc qui ressemble à peu près à ça.
Je parle pas de moi, là. je parle dans le sens des professionnels.
Ouais, mais en même temps, l'humour qui est fait dedans, peut-être que ça demande une construction qui est un peu plus complexe.
Par contre, peut-être que le scénario...
Alors, j'aurais tendance à pas avoir beaucoup de mal à parler de scénario, justement.
D'accord. Oui, donc c'est plutôt vraiment l'humour et les petites scènes, ouais. Petites scénettes.
Là, l'ouvrage, il est divisé en plein de petits chapitres qui regroupent une thématique ou avec des histoires qui vont se suivre avec des petites références. À un moment, Tachikawa, il fait un cauchemar sur le fait que ses mains deviennent des griffes. Et en fait, on va avoir plusieurs scénettes et la thématique des griffes ou de la peur des mains va se retrouver sur 3 ou 4 scénettes derrière.
Le crossover avec Edouard aux mains d'argent. Moi, je trouve aussi que le méchant humain en armure, il a une tête de roucaille de Peter Jackson un petit peu.
Il y a ce côté, ouais.
Enfin, de Tolkien.
Et c'est l'armure bizarre Jackson. Parce qu'on voit la bouche à travers le masque, tu vois.
Oui, c'est
mais bon, voilà. Donc Chikawa, c'est de Nagano. C'est publié aux éditions Nobi Nobi. Voilà. Et si on parlait de notre invité, du coup.
Allons-y.
Allons-y.
Je suis prêt.
Alors, j'ai pas de jingle invité, j'ai pas fait encore. J'ai un jour, j'y arriverai. Ouais. J'ai du mal à gérer tous mes jingles.
Bon, on va en faire un.
Non, ce que je te propose, c'est qu'on fasse d'abord une petite pause musicale. Et puis après, on pourra voir lancer ça. Ok?
C'est parti.
Est-ce que, tu veux, quel morceau tu veux en premier? C'est Luc qui a choisi les musiques.
Eh ben, va pour Gorillaz.
Allez, on est parti sur Gorillaz avec Punk.
Yeah.
C'était Gorillaz et la chanson Punk sur le 101.5 de Radio G. Toujours la case de Seb. On va parler d'une BD qui je suis en train de... Attends, tu n'es pas... voilà, maintenant tu peux parler, on ne t'entend pas.
En fait, j'ai choisi cette chanson parce que c'est Jamie Hewlett qui donne leur esthétique au personnage de Gorillaz. Et il y a un côté très BD. D'ailleurs, il a rendu hommage à Moebius dans un de ses dessins récemment que j'ai vu passer sur le web. Et puis, c'est un auteur, un illustrateur qui a eu une influence sur des gens comme Johan, le dessinateur de Spirou.
Oui. Bah, moi, c'est un dessinateur que je connaissais avant Gorillaz, puisque je suis un grand fan de Tank Girl.
Et oui.
Et j'avoue que...
Est-ce que tu as vu le film de
Tank? Oui. J'adore ce film. qu'il soit bon ou pas, je n'ai pas d'avis parce que c'est un film que j'adore.
C'est un petit peu biaisé.
On a Patoche qui dit « Vive Lucky Banchet, Lucky Banchet le boss ».
Patoche, mais merci Patoche.
Et ben,
n'hésite pas à intervenir surtout, c'est parfait.
Du coup, on va parler de Aliénor et les aliens, c'est ça? Attends, redis Fabien. Attends, je t'ai pas ouvert ton micro.
Si. Tu veux pas qu'on parle ce soir.
C'est ça.
Non, mais
t'es
voilà.
La fatigue.
Donc, ouais, Aliénor et les aliens.
Et l'allitération, là, les gars.
Ouais.
Mais du coup, on va le titre. Attention.
On va y venir. C'est de Lucky Banchet, du coup, et de Guillaume. Oui. Se prononce Guillaume.
Ouais, Guillaume. Il a pas d'exigence particulière sur la prononciation. On en a discuté. Et évidemment, il s'appelle Guillaume en vrai.
Mais. Ça, je m'en serais douté.
Mais. Il est pas bloqué sur la prononciation de son pseudo.
Bon, impec. Redonne l'éditeur, vu que tu attaques à la...
Jungle.
Voilà. Donc, on est ravis de t'accueillir dans l'émission pour parler Refe Lucky. T'as vraiment un grand, grand fan. Je ne sais pas qui est Patoche, mais
okay. En tout cas, il est là. C'est une affaire à élucider. Nous en parlerons.
Moi, j'ai toujours la première question en fait que je pose à nos invités, c'est est-ce que tu peux te présenter, qui es-tu et comment tu en es venu à la BD?
Waouh.
Moi, j'ai déjà la réponse, okay. Hein, globalement, mais
très bien. J'en suis venu à la BD tout petit en fait. J'ai jamais
dans le micro.
J'ai jamais intellectualisé mon arrivée dans la BD. Je pense qu'elle remonte à ma petite enfance. C'est terriblement conventionnel, mais je dessinais beaucoup gamin, et je crois que il y avait aussi une certaine émulation familiale, et j'aime bien ce côté collecte familial avec les Lucky Luke, les Astérix, les Gaston, les Tintin qu'on retrouve dans les maisons et qui font un pont générationnel. J'aime bien parler de pont générationnel par la bande dessinée, et c'est un petit peu ce que j'ai essayé de reproduire avec Aliénor. Dans le sens où il y a un double niveau de lecture. C'est-à-dire que c'est une BD qui est calibrée pour les 7-12 ans, mais qui est aussi pensée pour les parents via des références qui vont passer au-dessus de la tête des enfants, mais sans que ce soit grave. C'est très référencé, années 80-90, il y a beaucoup de petits clins d'œil... aux jeux vidéo de ces années-là, aux films également. Bon, je crois que sans trop en dire, tout le monde pourrait y trouver son compte dans la famille.
Ok. C'est un album que tu fais du coup avec Guillaume.
Oui.
Comment ça s'est passé la rencontre avec Guillaume? Fabien, tu n'hésites pas si tu as une moindre question,
ouais,
à intervenir.
Ça marche.
En tout cas.
Eh bien, je cherchais un dessinateur pour illustrer le projet. J'ai fait marcher un petit peu le réseau. Et c'est Dave qui m'a présenté Guillaume.
Ok.
C'est comme ça qu'on a démarré l'aventure. Il a lancé quelques croquis. On a envoyé le dossier à droite, à gauche. Et j'ai vu que quelque chose se passait. Parce que il y a des éditeurs qui sont sympas, qui sont bienveillants, qui donnent des pistes de réflexion. Et puis il y en a d'autres qui répondent pas. Et là, j'ai eu plusieurs réponses qui étaient assez encourageantes. Il y a trois éditeurs qui étaient intéressés, puis c'est Jungle qui a fait une proposition peut-être le plus rapidement sur un format qui nous convenait avec Guillaume. Voilà.
Ok. Est-ce que tu veux nous pitcher l'album?
Alors, c'est l'histoire de deux extraterrestres qui sont agents spatio-temporels, mais qui sont vraiment super nazes et qui se plantent, surtout, ils se plantent de siècles, hein, ils confondent le 12e et le 21e siècle, ce qui fait que le message interstellaire qu'ils devaient délivrer à Aliénor d'Aquitaine, la grande reine du Moyen-Âge, passe un peu à l'as. Ils s'aperçoivent pas tout de suite de leur erreur et ils se retrouvent chez Aliénor, le roi. Parce qu'ils sont aussi nuls en français. Et bien vite, on comprend que leur marge de manœuvre pour rentrer chez eux est assez limitée. Et ils tapent rapidement l'incruste chez Aliénor, qui va les héberger. Sans vraiment avoir le choix et qui, au fil des pages, bon gré mal gré, va s'accommoder de la situation jusqu'à en tirer parti. Parce qu'il faut savoir que ces deux extraterrestres, Xitol et Stéréo, ont, grâce à une technologie extraterrestre embarquée, la possibilité de se faire passer pour Xitol, pour un pigeon obèse, et pour Stéréo, un radiocassette. Mais ce personnage de Stéréo, c'est celui qui m'est venu en premier. J'aimais bien son côté anachronique au XXIe siècle.
Oui, effectivement.
Et si on y pense un petit peu plus, le côté aurait été encore plus anachronique au XIIe siècle, mais c'est là qu'on voit qu'ils n'ont pas pensé à tout.
C'est clair. Comment ça t'est venu, cette idée de scénario? C'est un échange, enfin, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un scénario que tu avais déjà en tête avant de chercher un dessinateur dessus?
Ah oui, bah il vaut mieux, parce que c'est vrai que pour un dessinateur, c'est pas toujours évident de trouver un dessinateur qui accepte de se lancer dans une aventure où rien n'est signé finalement. Hein. Mais étant donné que le projet avait reçu un écho favorable chez trois éditeurs, ben on a pu quand même se diriger assez rapidement vers quelque chose de plus abouti avec des planches.
Et du coup, excuse-moi.
Vas-y. Non, mais...
Du coup, entre vous deux, c'est toi, tu t'es occupé que de la partie scénario et lui fait toute la partie dessin ou...
Oui. Ouais, c'est... Alors okay, après, on a une influence, je pense, mutuelle, parce qu'on a vraiment, c'est un vrai travail quatre mains. Moi, c'est vrai que je dessine aussi, même si, enfin, sincèrement, je même pas commencé à essayer de me comparer à Guillaume, qui pour moi est un dessinateur formidable. J'avais déjà une idée de l'esthétique des personnages et on en a discuté, on a fait une espèce de ping-pong, hein, comme souvent entre dessinateurs et scénaristes, et puis on s'est mis d'accord assez rapidement. Il y a des personnages qui ont été plus évidents que d'autres. Dès la première ébauche que Guillaume a proposé d'Aliénor et Rémi, son copain, c'était tout de suite ça, quoi. Il y avait rien à changer. Pour les aliens, on en a discuté un petit peu plus, mais au final, il n'y a pas eu de difficulté énorme.
Ok. Il y a quand même de l'ajout en fait de la part de Guillaume sur la partie dessin, c'est ses idées qui ont pu alimenter les échanges. Est-ce qu'il a aussi fait des propositions au niveau scénario, ou est-ce qu'effectivement c'est quelque chose de plutôt figé et c'était ton précaré?
Alors il m'a donné ses envies. Il a aussi influencé quelques gags par ses suggestions. On a travaillé de manière assez collégiale. Il a été très à l'écoute des idées que je pouvais avoir sur l'esthétique des personnages, et moi j'étais je pense aussi à l'écoute de ses envies. Voilà, c'était vraiment un partenariat riche et fructueux. C'est vraiment notre album.
Bon, ça c'est cool.
Ouais.
Est-ce que dès le départ, alors c'est un album qui est un album humoristique principalement,
oui,
mais il y a quand même de l'histoire un petit peu dedans. Oui. Et est-ce que dès le début du projet, il y avait déjà cet axe humour plus qu'histoire, ou est-ce qu'il y avait un mix des deux plus important, ou plus histoire qu'humour?
Alors, composante historique, moi je la trouve amusante, parce qu'il y a un côté là-dedans qui montre certaines influences sous-jacentes. Enfin, évidemment, je pense à Goscinny avec Astérix, qui a toujours réussi à donner en filigrane des informations sur les Gaulois, Encore une fois, sans comparer, je pense que cette influence-là, elle a été aussi déterminante de manière plus ou moins consciente dans l'élaboration du projet. Et même si on parle pas tout le temps d'Aliénor d'Aquitaine, dans la BD, elle fait partie du pitch de départ et elle permet d'avoir une approche un petit peu pédagogique sans être prise de tête. Mais c'est vrai que c'est l'humour qui prime hein, dans l'album quand même. Puisque c'est un, on l'a pas dit, c'est une histoire complète, mais
oui,
sous forme de gag à suivre. Voilà.
Alors histoire complète, oui, mais il y a quand même une porte ouverte à autre chose à la fin.
Ah oui.
C'est pensé comme ça dès le départ d'avoir une série d'albums.
Oui, j'ai proposé des pitchs pour plusieurs albums. Après, il faut que
celui-là marche avant.
Que celui-ci rencontre son public. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est la logique du marché de la bande dessinée. Il faut être aussi.
Ouais, on est un peu dans le même genre de série qu'on va dire un Astérix, c'est-à-dire que ça se termine au premier album entre guillemets de l'histoire en tant que telle, mais il y a plein d'autres histoires qui peuvent.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que chaque album forme une histoire.
Ok.
Mais par le biais de gags qui s'enchaînent et qui peuvent se lire individuellement.
D'accord, ok.
Voilà, ça a été pensé aussi pour une publication éventuelle en magazine.
D'accord, ok.
Voilà.
Cool. Mais il n'y a pas de publication magazine pour l'instant.
Pour le moment, non. Ça peut arriver. Je n'ai pas encore de scoop à vous délivrer de ce côté-là, mais ça fait partie des choses dont on discute.
Ok. Bon, on le note. Sur la partie de travail, donc j'imagine que sur la partie scénario, plutôt ordinateur ou travail manuel.
Alors c'est ce que j'explique à la fin de l'album. Il y a deux planches où j'explique en six étapes l'élaboration de
je les ai lues en plus
d'une planche avec Guillaume. Moi je me balade avec un petit carnet où je note des gribouillis lisibles à longueur de temps, et puis de temps en temps j'ai des sessions où je me pose devant mon ordi, je réfléchis, j'arrive à ça un petit peu, je trie beaucoup parce que je garde pas tout. Et l'étape de mise en forme arrive sous forme de tapuscrit au clavier, avant de passer à la deuxième étape du scénarimage, du storyboard en anglais. Mais alors, la manière dont on a travaillé assez rapidement avec l'éditeur Max Lhermenier, c'est que je lui faisais passer mon tapuscrit, qu'il me validait ou pas, soit je devais revoir ma copie, soit c'était tout bon tout de suite. Suite à ça, j'élaborais le storyboard pour Guillaume. C'est-à-dire que cette étape du storyboard, au départ, je la présentais à Max. D'ailleurs, dans le dossier, il y avait 10-12 pages storyboardées. Et puis, je me suis vite aperçu que c'était plus prudent et en accord avec lui, avec Max, de lui présenter le tapuscrit avant de passer au storyboard. Parce que, en cas de modification, c'était plus facile.
Il y a un gain de temps, en fait.
C'est ça. Ouais. Et puis, la méthodologie s'est mise en place assez rapidement. Et ce storyboard, je le fais vraiment pour Guillaume, parce que la plupart du temps, il n'y a que lui qui le voit. Et comme j'explique dans ces fameuses deux pages finales de l'album, il me fait une proposition qui reflète ses envies à lui, et puis on en discute ou pas d'ailleurs. Souvent, j'apprécie tout de suite ce qu'il me propose. Parfois, j'ai aussi des contraintes. Enfin, on a tous les deux des contraintes auxquelles peut-être qu'on n'a pas pensé. Par exemple, il y a un personnage qui est pas facile à animer, c'est celui stéréo, parce que lui, il peut pas bouger en public.
Oui.
Eh oui, puisque tout le monde le voit comme un radiocassette. Alors j'ai trouvé ce petit gimmick là où c'est Xitol qui le porte. Alors c'est un peu bizarre, un pigeon qui porte un radiocassette, mais je pense que ça reste en cohérence avec l'univers. C'est-à-dire que le pigeon est bizarre, tout le monde l'a remarqué. D'ailleurs, Aliénor se fait un petit peu railler par ses copains de temps en temps, parce que c'est pas le top du cool de se balader avec un pigeon et un radiocassette tout le temps.
Ni même chez soi, hein, puisqu'il y a certains gags qui sont sur l'acceptation de ces deux...
Absolument.
Objets, c'est même pas des... c'est ce que pour les parents, ça reste des...
Oui, les parents sont plus enclins à accepter la radiocassette qui leur rappelle leur jeunesse. D'ailleurs, il y a un gag là-dessus avec la maman, avec le pauvre stéréo qui a tendance parfois à en prendre un peu plein la figure. Et puis, ce pigeon-là, quand même, que la maman a du mal à accepter. Mais finalement, ils sont pleins de ressources, ils arrivent toujours à leur fin, ces deux-là.
Le papa trouvera les mots.
Oui, absolument.
Donc ça, c'est vraiment super cool. Et sur la partie travail graphique,
oui.
C'est pareil, c'est un petit peu expliqué, mais Guillaume travaille principalement numérique.
Oui. Et c'est assez paradoxal parce que finalement, moi, je travaille à l'ancienne et je suis le seul à avoir des originaux papier. Peut-être que ça fera l'objet d'une expo
à Angoulême.
En fin d'année. Oh là là, oui, bien sûr, oui.
Hey, on te souhaite.
C'est une excellente idée, mon cher Fabien.
Eh oui.
On la soumet aux organisateurs. J'imagine que tu imagines peut-être quelque chose de plus proche quand même.
Oui, alors j'ai récemment eu la confirmation que je ferai partie des auteurs invités à Angers BD cette année, donc ça c'est plutôt cool. Peut-être qu'il y aura une expo en marge du festival, je ne sais pas. Il y a rien de tout est en train de se mettre en place puisque la BD est sortie mercredi dernier. Ça fait même pas une semaine évidemment. Donc là, je suis bombardé d'infos.
Tout s'enchaîne.
Tout s'enchaîne, mais c'est bien, c'est tout positif. Les interviews s'enchaînent, écrites, orales. Je suis ravi d'être ici pour vous en parler. C'est génial.
T'as déjà des retours des lecteurs sur l'album ou pas?
J'ai vu une chronique qui m'a fait très plaisir sur le site scénario.com qui était ma foi très positive, donc merci à la chroniqueuse Eiffel d'avoir rédigé ce papier. Évidemment, j'ai des cobayes à la maison hein, puisque j'ai 4 enfants.
Ouais.
Et à qui je fais un bisou et qui passent à la radio. Oui, bien sûr, mais eux, ils lisaient les gags au fur et à mesure. Alors, ils étaient fiers parce que vous pouvez frimer sur la cour de récré.
Avant première.
Mais c'est tout frais, tout neuf. Donc, j'ai pas encore un max de retour. Mais c'est vrai que celui de scénario.com est complètement objectif puisque je ne connais pas, je ne connais pas les rédacteurs de ce site.
Bon, tant mieux. Ça évite.
Il n'y a pas de délit d'initié. Mais...
Alors Patoche dit qu'il a lu Aliénor et c'est assez exceptionnel.
Il est en forme ce Patoche.
Ouais, il a eu un chèque, c'est ça. Hein.
C'est payé un certain nombre d'individus avant de rentrer dans le studio en leur expliquant.
Je ne sais pas.
Mais c'est mon rôle de scénariste. Hein. Tout est scripté. Évidemment.
Tout est calé. Alors moi je l'ai lu, mes enfants l'ont lu.
Ah génial.
On a tous bien aimé. Okay. Mes enfants l'ont lu plusieurs fois.
Ah oui.
Ils sont en fait mon fils a tendance à lire en boucle les trucs donc
il aime bien
mais que ceux qui l'aiment bien, c'est ça le truc. Donc
j'avais bien compris.
Et ça voilà, ça marche bien. On a de l'humour qui est frais, qui est plutôt cool. Patoche dit qu'il a pas eu de chèque. peut-être qu'il voudrait bien, je ne sais pas. Non mais c'est frais, c'est cool. C'est assez fluide. Comme beaucoup d'albums en fait, on a qu'un seul regret, c'est que ça se lise justement assez fluide et peut-être trop vite, et quand on arrive à la fin on se dit bah ouais encore un peu, ce serait pas mal.
Et mais c'est pour ça qu'il faut un tome 2.
Bah oui, c'est tout ce qu'on souhaite, mais on va déjà faire fonctionner ce tome 1. Donc ça marche
bien.
Bien
rendu là ou pas? Ouais, c'est bien.
Okay. Bah je pense.
Oui, en tout cas ça donne envie.
OK, merci.
Voilà. Donc
moi j'ai vu plein de petits rêves déjà qui me plaisent bien.
OK.
J'aime bien les fermiers. Je dirais rien, mais j'aime bien les rêves des fermiers.
Le fermier,
mais à un moment donné, il est avec un. Sur une case, je l'ai vu avec un autre.
Son frère, le livreur.
Voilà.
On n'en dit pas plus.
on laissera les gens découvrir.
Exactement. Ouais, mais en tout cas, voilà, petit rêve, j'ai parcouru un peu. Alors, c'est pas mal.
Ouais, mais justement, je pense que une relecture. En deuxième intention, peut être nécessaire pour voir tout ce qui se passe en arrière-plan, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits trèfles, des petits œufs de Pâques disséminés à droite à gauche sur beaucoup de planches de l'album. Donc c'est bien amusé avec Guillaume.
Oui, c'est des œufs de Pâques qui sont disséminés en commun.
Alors, parfois c'est moi, parfois c'est lui. Lui, il a pris beaucoup d'initiatives par rapport à ça, il a pris beaucoup de plaisir à me surprendre par des petits trèfles bien sentis. Ouais, carrément.
Moi, il faudrait que je la reprenne parce que du coup, je l'ai lu en format numérique et on n'en profite pas pareil sur un ordinateur qu'une version physique. Donc, je pense que je vais redécouvrir des choses parce que l'histoire, du coup, maintenant, je la connais. Hein.
J'ai vu que la version était en vente sur Isneo, une plateforme de lecture
numérique.
Numérique, ouais. Ouais. Donc après, chacun aura son idée, mais je te rejoins sur le fait que.
C'est mieux la version
papier. On est d'une génération où sans doute le rapport au papier est vital.
Oui, ouais. Je vais pas vous contredire là-dessus, j'ai du mal encore avec le numérique, même s'il y a le côté pratique de la chose, mais évidemment, d'avoir l'objet entre les mains, ça reste toujours le plaisir du papier, quoi.
Mais bon, on est quand même sur un format 48 pages couleur, avec deux pages à la fin qui sont plutôt rédigées. Et moi, je suis très content qu'on ait eu l'opportunité de jongler un peu avec les formats. On a aussi du strip, on a des gags en strip. Ça, c'est, enfin, pour moi, c'est, ça a une saveur particulière. On s'est pas interdit de jouer sur les formats qui sont au service des gags et pas l'inverse.
C'est quand même mieux.
Eh oui. Oui, je veux dire, on n'a pas eu de format imposé. C'est-à-dire qu'on a pu, on a eu cette liberté-là.
L'éditeur vous a laissé les coudées franches.
Absolument. Il a vraiment, ça lui a beaucoup plu qu'on puisse proposer ça. Il a été, toujours assez enthousiaste. C'est pareil, j'ai proposé un jeu.
Oui.
Au milieu de l'album.
On en a pas parlé.
Qui se cache, et qui habituellement, les jeux sont habituellement réservés au plus petit format, type, vous voyez, Migali ou Ariol. Mais moi, ça me semblait intéressant aussi de proposer des choses nouvelles. Et mon but, c'était aussi de surprendre le lecteur avec des gags auxquels on s'attend pas.
Les surprendre
chutes,
un petit peu.
Voilà, ouais. C'est ça. Des chutes qui apportent un peu. Tu parlais de fraîcheur. Bah, je suis content que tu aies utilisé ce mot parce que c'est vrai que c'est. Je me casse la tête pour essayer de surprendre toujours un peu le lecteur.
Ça se voit, ça marche. Hein. Enfin, t'auras l'occasion peut-être de le lire en version complète.
Mais ouais, pourquoi pas, ouais, carrément. En tout cas, ça me tente bien. J'ai vu.
C'est vrai qu'on est sur un format franco-belge assez classique. D'ailleurs, Guillaume est belge et je suis français. Mais l'humour est quand même assez moderne. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'influence du côté des dessins animés, Groening, Gravity Falls.
Yes, c'est des bonnes références, hein.
Même il y a une série qui m'a interpellé. Je pensais pas qu'on pouvait encore faire du neuf avec Scooby-Doo. Je sais pas si vous avez vu la série Trop Cool Scooby-Doo.
Ah non.
Qui est assez marrante parce que le graphisme est justement avec des gros yeux globuleux à la Simpson et l'humour est complètement décalé. Hanna-Barbera a bien joué le coup là-dessus.
Faudra qu'on découvre ça. Est-ce que tu veux nous parler donc? On souhaite un tome 2, hein, j'imagine. Mais déjà, on va laisser vivre un petit peu celui-là. Est-ce que tu as d'autres projets, toi, ou peut-être des projets de Guillaume dont tu peux parler
Alors, Guillaume est parti sur plusieurs projets sans
de micro.
Trop en dévoiler. Je sais qu'il a. Je peux parler des choses dont il a déjà parlé sur Instagram. Il est en train de dessiner un album avec des voitures sur un fameux circuit. Qui est pas si loin de nous.
Mm-hmm.
Est-ce que ça peut vous dire quelque chose?
Peut-être.
Peut-être.
Je suis nul en voiture, hein, mais là
ouais,
je pense
bon,
que
là,
je vois
pense
quand
qu'on
même.
Voit tous à peu près. Hein.
Et puis il a un projet plus perso aussi qu'il a signé chez un autre éditeur. Voilà, donc je vous invite à consulter sa page Insta. Il est pas avare de petits scoops et de dessins chouettes.
Bon. Eh ben, on ira voir ça. On le retrouve sous le même pseudo sur Insta.
C'est Guillaume Art. Guillaume Art. Guillaume tiré du bas Art.
Ok.
Et moi, j'ai quelques projets aussi sur le feu. Bon, c'est un peu tôt pour en parler, mais on me resollicite pour de l'illustration, ce que j'imaginais pas à ce stade. Donc, je suis très content aussi parce que j'adore dessiner, même si je pense que c'est quand on est exigeant, c'est un boulot à temps plein, quoi. Ce que je peux pas forcément à ce stade de ma vie opérer, à moins d'un virage à 90 degrés. Mais en tout cas, scénariste, c'est quelque chose qui peut se conjuguer avec
un
autre travail. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas. Hein, les scénaristes, ils sont souvent salarié ou il travaille beaucoup à côté, quoi. Je crois que c'est le cas de pas si loin là des collègues comme Damien Cercque à Cholet. Je pense qu'ils ont tous un boulot à côté aussi. Enfin, c'est pas le cas de tout le monde hein, parce qu'il y a aussi des
scénaristes à temps plein.
Des scénaristes à temps plein, mais souvent ils sont dessinateurs aussi. Alors c'est un peu paradoxal ce que je dis, je sais, mais en tout cas c'est ma situation. Moi, je suis professeur d'anglais dans le secondaire, dans la vie sur Angers. Voilà.
Oui, donc rien à voir avec la BD.
Alors, il y a beaucoup de passerelles, hein, puis j'ai la chance d'être dans un établissement où je peux mettre en avant la BD souvent. Par le BD 48 heures BD, où je peux inviter des auteurs tous les ans pour organiser des conférences avec les élèves. Donc ça, c'est très chouette.
Ça, c'est chouette. Ouais. Je te propose, déjà, merci d'être venu pour qu'on puisse parler de cet album.
Bah, merci.
On va
vous
donner les références. Tu veux redonner les refs,
ouais,
Fabien?
Je veux bien. Donc c'est Aliénor et les Aliens, à l'édition Jungle, et c'est de Lucky Banchet et Guillaume.
C'est voilà. Bien ça. Eh ben, merci. On va partir avec le deuxième morceau musical que tu nous as proposé.
Allez.
Je te laisse donner les refs.
Alors, on part sur un classique?
Non, c'est l'autre.
Ok. Alors, on part pas sur un classique?
C'est sur Dynamite Shakers.
Ah ouais, ouais, les Dynamite Shakers. Je les ai découverts, Dynamite Shakers. Je les ai découverts, à la 7e vague ce week-end et franchement, c'est un groupe de petits gars qui met le feu. On y va.
Allez, c'est parti.
Remember this guy just sitting around, stupid and mocking faces. This guy was so meaningless in their lost town, but they came in to sneak around.
FM. Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes toujours dans la case de Seb. On vient d'écouter Dynamite Shakers et What's Going On, un morceau choisi par Lucky, qui nous disait qu'ils sont d'origine vendéenne, c'est ça, hein?
Ah, ils sont même carrément vendéens.
Ok.
C'est des rockers ventre à choux. C'est pas cool, ça, comme concept.
Trop bien.
Non, mais c'est de la musique garage moderne. Ça me fait penser un peu aux Strokes.
Ouais.
Il y a plein d'autres groupes cool.
Ça marche trop bien. Fabien, ça va être à toi de nous parler de l'album. Du coup, d'abord, générique. Ah, je commence à avoir trop de trucs là.
Kaizoku-oni. Ore wa naru.
Nani? Omae wa mou shindeiru.
De quoi tu nous parles ce soir?
Alors, ce soir, je vais repartir sur un manga un peu plus adulte, entre guillemets. Ouais. Je vais vous parler de La Grande Traversée. Donc, La Grande Traversée, donc, c'est chez un petit éditeur.
Arrête un peu.
Ah ouais, non. Voilà. Là, on n'est pas du tout sur ça.
Pas sympa. Il a des notes et tout. Il a bossé. Ouais, franchement.
Et du coup, c'est édité chez Le Lézard Noir. Donc, petit éditeur, mais qui a plein de pépites. Donc, je vous conseille énormément.
Petit éditeur, mais qui fait toujours des formats qui sont assez imposants.
Oui, un peu plus gros. Là, on est sur le format classique, parce qu'ils ont commencé à sortir des formats un petit peu plus petits, là, dernièrement.
Ah, yes.
Et là, on est sur leur format classique, c'est 12-18, je crois, ou quelque chose comme ça, en termes de taille. Et il y a, dans celui-là, à peu près 288 pages. Et c'est un one-shot. Donc, du coup, c'est bien, ça encombre pas trop la bibliothèque.
C'est pas mal.
Et donc, c'est pas...
Ça, c'est sorti de ta bibliothèque à toi.
Ouais, c'est pas sorti,
un service de presse.
Non, là, c'est sorti de ma bibliothèque à moi, tout à fait. Et donc, c'est paru au Japon en 2016. C'est fini en deux tomes là-bas. Ils ont condensé ça en un seul en 2022 chez nous.
Ok.
Et donc, nous avons au dessin Kumota Haruko et au scénario Miura Shion. Et donc, on est sur un josei. Donc, je pense que ça doit être la première fois que je parle d'un josei. Donc, pour ceux qui ne savent
Qu'est-ce qu'un josei?
On va être, en fait, on va être donc sur une lecture un peu plus adulte, plus mature et dans des magazines de prépublication japonais à tendance un peu plus féminin, on va dire. Sur un public, voilà, on va voir un peu plus, peut-être la romance va être un peu plus marquée, peut-être un peu moins d'action et de violence.
Donc ça te correspond bien?
Ça peut me correspondre dans pas mal de lectures, parce que j'en ai pas lu énormément, mais quand je les lis, je trouve ça très sympa.
Okay.
Et donc là, on va être sur une tranche de vie. Donc là, c'est plus la tranche de vie qui est mise en avant que la romance. Et on est aussi sur une adaptation d'un roman, donc éponyme, du même nom, de Miura Shion, qui a eu un carton au Japon, qui avait été élu en 2011 prix des libraires japonais. Et donc, en fait, de quoi ça parle, La Grande Traversée? Donc, c'est Mitsuya Majime, qui travaille au service commercial de la maison d'édition Genbu Shobo. Son sens aigu du mot juste lui permet de rejoindre l'équipe du service des dictionnaires. Il va devoir, avec ses nouveaux collègues de travail, qui partagent le même amour que lui pour les mots, se plonger corps et âme dans la fabrication d'un nouveau dictionnaire, La Grande Traversée. Entouré de collaborateurs tout aussi acharnés que lui à trouver le mot juste, il se lance corps et âme dans ce chantier qui va pendant plusieurs années profondément changer sa vie. Donc voilà, donc quand je disais, bon, moi je suis encore de retour avec une tranche de vie, j'aime bien ce type-là, après ça fait partie de ce que j'apprécie dans le manga. Et en plus de là en plus on va parler d'un manga qui parle de dictionnaire. Je fais donc, premier abord, ouais. Ça va être barbant au possible... entre guillemets, s'embêter sévèrement. Eh ben non, pas du tout, parce que c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle. On est sur une lecture qui est très rafraîchissante, avec plein de personnages en couleur, extrêmement bien écrits, dont on va s'attacher, en fait. En plus, c'est assez centré. Il n'y a pas beaucoup de personnages, puisque ça tourne vraiment autour de cette petite cellule qui est ceux qui vont devoir créer ce dictionnaire-là. Et on va suivre leur quotidien, leurs difficultés, et avec toutes les émotions possibles. Mais vraiment, l'auteur va nous distiller ça avec beaucoup de finesse. Et on va avoir aussi bien des moments de romance, des moments de tristesse, des moments plus durs de questionnement, d'angoisse. On va avoir un peu le stéréotype du beau gosse dans l'équipe et tout ça, mais qui, derrière lui, en fait, est pas du tout sûr de lui. Ça se fait pas comme il aimerait. Voilà, plein de choses comme ça. Mais avec des relations assez matures, en fait, entre adultes, hein, vraiment.
Ça fait très posé. Il y a un petit côté Taniguchi, non?
Oui, tout à fait. Ouais, on est sur un côté dessin. On est vraiment sur une ligne claire. C'est vraiment du très.
Tu es en train de le feuilleter en même temps. Mais t'es sûr que c'est pas un Astérix quand même?
Non, c'est pas un Astérix.
Mais en effet, il y a pas de Romain.
En effet, on est sûr de. Ouais, on pourrait mettre ça dans la tranche de vie comme un Taniguchi qui fait partie des auteurs que j'adore énormément.
Ouais, ça fait très calme, très posé.
Exactement. Donc on est sur une lecture chill. On peut se poser, on peut apprécier. On va vraiment avoir ce dessin aussi qui est donc assez simple, entre guillemets, un très clair, précis. Pas beaucoup de décors, mais ce qui nous recentre sur les personnages. Et c'est vraiment là le plus important, c'est vraiment ces relations entre eux et l'évolution tout au long de la carrière de ce, au départ, jeune homme qui va forcément évoluer, puisque on apprend quand même qu'un dictionnaire, ça ne se fait pas en 1, 2, 3, 4 ou 5 ans, mais en beaucoup plus d'années. Et ouais, du coup, c'est assez intéressant de voir aussi ça, parce que bah, finalement, ça prend tellement de temps que dans une maison d'édition, ça doit être compliqué à gérer, d'avoir toute une équipe qui travaille là-dessus. Donc c'était vraiment cool, je savais pas trop quoi m'attendre au départ, parce que le pitch peut faire un peu peur. Mais j'en avais entendu beaucoup de bien. Donc je me suis dit, c'est le lézard noir, c'est de la tranche de vie, j'en ai entendu bien, il faut que j'essaye. Et sincèrement, j'ai été conquis, donc je recommande vraiment. En plus, un seul tome, voilà, ça engage pas, c'est pas engageant, et on passe un bon moment de lecture.
Ouais, Uderzo Goscinny nous déçoive jamais.
Ah non, ça c'est sûr, on est d'accord aussi.
Non mais c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est que dans ce que tu dis, moi je retrouve en fait ce que j'ai pu découvrir lorsque j'ai lu un ou deux Josei. J'avais lu Le professeur qui lisait les romans d'amour, je sais pas si tu l'avais lu celui-là.
Non, celui-ci je ne connais pas.
Et pareil, peu de décors et vraiment centré sur les émotions et les interactions entre les différents personnages. Et c'était assez impressionnant de se rendre compte qu'on pouvait avoir des moments de joie toute simple et des moments de tristesse très profonde et repartir sur d'autres émotions. Et tu fais, ok, je savais pas que je pouvais être bougé de cette manière-là.
Ouais,
en fait.
C'est l'intérêt en fait de cette classification, on va dire entre guillemets, quand on part sur le Josei ou le Seinen en tranche de vie aussi, hein, on peut faire le penchant un petit peu aussi, c'est d'avoir ces émotions-là qui sont vraiment plus matures que ce qu'on peut retrouver dans le Shonen. On va être plutôt... On peut retrouver un petit peu ce genre d'émotions, mais on va tout de suite être un peu plus pour la jeunesse, donc ça va être moins poussé, on va dire.
Mais c'est cool.
Il y a une publication en magazine comme
alors
on parle souvent de Shonen Jump. Ouais.
Alors oui, il a été prépublié au Japon. De toute façon, tous les mangas sont dans des prépublications, okay. Ouais. Et c'est même ça qui fait le type. Josei, Seinen, Shonen et tout ça, c'est en fonction du magazine de prépublication.
Ouais, c'est super codifié.
Ouais, c'est très codifié là-bas, et c'est d'ailleurs pour ça que quand ça vient chez nous. C'est un petit peu biaisé parce qu'on n'a pas les mêmes codes. Donc quand on classe ça en shonen ou en seinen, des fois, on sait pas trop parce que dès qu'on parle shonen, on veut que ça soit plus pour les enfants, mais c'est pas toujours le cas là-bas. Donc alors vu que ça vient d'un magazine de prépublication shonen, on se dit bon, faut que ce soit ça, c'est pour les enfants. Alors que bah il y a certains trucs, ça peut être un peu limite, Sony. Ça peut poser des limites cette classification là.
Ok.
Je me permets juste d'intervenir parce que c'est pareil, j'ai vu passer quelque chose que j'ai découvert il y a pas très longtemps, c'est que pour moi, la prépublication au Japon, c'était 3-4 magazines avec quelques références. En fait, il y en a des myriades.
Plein.
On connaît le Shonen Jump parce que c'est celui en fait qui a popularisé des grosses ouais, séries en France.
Ça, tout à fait.
Mais en fait, il y en a des dizaines et des dizaines.
Ouais, il y en a
c'est
énormément.
Impressionnant.
Bah là-bas, donc, de toute façon, tout passe par ça au départ. Donc c'est pour ils en ont tellement que nous à côté, on en a déjà beaucoup. Mais là-bas, c'est voilà, ça n'a rien
et puis,
à voir.
Les ouvrages en reliure, il y en a moins quand même au Japon aussi. Donc
ils sortent après, mais ils sortent quasiment tous en relié derrière. Hein.
Ok, je pensais que c'était
beaucoup. Ah ouais, non, il y en a énormément. Alors peut-être pas tous vraiment qui flopent, peut-être que voilà, mais en général, t'as les tomes reliés qui arrivent quand même.
Cool. Moi, j'ai croisé un spécialiste français de Toriyama au Geekfest qui me disait qu'il y avait pas de d'originaux de Toriyama. Ça m'a bluffé, ça. C'est-à-dire que, apparemment, tout était balancé au fur et à mesure. Ça me paraît fou. Ça a vérifié l'info?
Ah ouais, c'est possible. Ça, je ne saurais pas dire.
Après, ça va avec le mode de consommation du manga.
Oui,
hein.
Exactement.
Nous, les bouquins, on les met sur des étagères. Au Japon, on les retrouve à 50 centimes le tome, quoi, ou un truc comme ça.
Oui, c'est de la lecture, à l'instantané. On n'a pas le même rapport par rapport à ça que, ouais. Déjà, les magazines de prépublication, c'est du papier journal, hein, carrément, quasiment.
Oui.
Hein, donc, c'est vraiment le genre de truc, tu le lis une fois, deux fois, trois fois, puis après, il va à la poubelle, quoi. Ça fait un peu ça.
Je pense qu'on va pas enchaîner sur une autre chronique derrière, parce qu'on a déjà commencé à un peu déborder, mais ça me fait penser à l'anecdote que j'avais eue avec, j'ai perdu son prénom, qui a fait les Chevaliers du Zodiac chez un grand format.
Ah oui. Bernard Minet.
Non, en BD.
La BD.
Du coup, en BD franco-belge.
Ouais.
Ah oui,
l'adaptation.
Je vois bien, je visualise bien le Goldorak, là. C'est les mêmes.
Ouais, c'est la même collection.
C'est pas Bajram, non, le dessinateur.
Non, c'est pas. Oh. Ben, alors, le Goldorak, pas le Senseiya. Et ce qui était très fun, c'est qu'en fait, le Senseiya, les éditeurs, donc, les Français, ils ont fait leurs albums qu'ils ont fait valider au Japon.
Ah oui.
Et les Japonais, à un moment, ils ont décidé, en fait, d'éditer en prépublication. Le Senseiya.
Okay. Sans rien toucher en plus.
Donc ils ont fait la trad et ils ont renvoyé la trad au dessinateur français en lui disant est-ce que tu peux valider ? Et le mec il fait je valide un truc que eux ont déjà validé. Et le petit twist
survalidation
plus loin derrière, c'est que dans le magazine de prépublication, c'était les seules pages en couleur. Donc okay. Les mecs ils ont vraiment fait le taf pour que ça respecte
l'esprit.
Le travail fait en France. Okay. Qui fait, c'est ultra cool, je trouve.
Ouais, c'est génial quand ça se passe comme ça. Cette passerelle-là, elle est rarement dans ce sens-là.
Ouais. Mais là, Kurumada avait été fan du truc, donc.
C'est vrai. Mais il y a quand même des projets qui passent de l'autre côté.
Ouais.
Bon, ça va pas toujours au bout. Je me souviens de Florent Maudou, Freak Squid. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y avait un projet de dessin animé, puis je crois que c'est tombé à l'eau, mais je crois que ça suscite quand même de l'intérêt de temps en temps. Je me souviens aussi d'une tentative de Dupuis pour faire un Spirou au format manga. Ça vous dit quelque chose, hein?
Ah, ça, j'ai pas vu.
Non, ça me dit rien du tout, non.
C'est dans les années 2000.
Bon, par contre, t'as des choses qui fonctionnent bien quand même, puisque tu parlais de Radiant a été diffusé en série animée.
Oui.
Et là, on a les premières annonces, justement, de Dreamland, par Renaud Lemaire, en version animée. Ça promet quand même pas mal.
Ouais.
Il y a moyen de faire un truc sympa en animé avec l'univers qu'il y a dans Dreamland. Il y a moyen de faire vraiment un animé hyper cool.
Ouais, et puis sauf erreur de ma part, les gars qui s'occupent de la partie animée, c'est des mecs qui ont déjà fait des adaptations de certains trucs. Les noms ne viennent pas là, mais et c'est plutôt quali. Donc et c'était des surprises. Ils ont fait l'adaptation animée de Dead Cells. C'est un jeu vidéo.
D'accord.
Donc ils ont transposé et ça marche très bien, donc cool.
Affaire à suivre.
That's all, folks. Et oui.
On ne voit pas le temps passer en votre
compagnie. Non, ça passe très très vite les émissions. On va reparler, on va donner les refs rapides, hein, parce que du coup on n'a pas parlé de tant de choses que ça. On a parlé d'Imago aux éditions Pika de Sylvain Dos Santos et Galang Tirtakuzuma et Mariam Hashmi aux éditions Nobi Nobi. On a parlé de La Grande Traversée de Haruko Kumota d'après le roman de Shion Miura Miura au scénario aussi, publié au Lézard Noir. Et on avait en invité Lucky Branchet pour parler d'Aliénor et les aliens avec Guillaume aux éditions Jungle.
Merci de votre écoute et de votre invitation. À la prochaine.
C'était avec plaisir.
Eh ben c'est parfait. On se retrouve dans 15 jours et en attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben vous avez de la chance parce que moi j'ai appris à lire, ben je peux de ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Kaizoku-oni! Ore wa naru!
Batman! Oh, la petite ch'touf!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi. I was so